En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie. Bonjour, pour la quatrième et dernière année consécutive, l'Académie des sciences vient de recevoir 25 nouveaux membres. Elle compte désormais plus de 230 académiciens. Il faut dire que la section de l'Académie des sciences est la plus riche. Elle possède 8 branches différentes, catégorisées en 2 divisions. On trouve dans cette première division la section de mathématiques, de physique, de sciences mécaniques et informatiques, et des sciences de l'univers. Dans la seconde section, on retrouve la chimie, la biologie moléculaire et cellulaire génomique, la biologie intégrative et la biologie humaine et sciences médicales. Nous vous proposons d'écouter sans plus tarder le discours de réception du président de l'Académie des sciences de cette année 2006, Édouard Brézin. Il revient à cette occasion sur la nécessité pour l'Académie de renforcer le domaine de recherche fondamentale et de rendre accessible à un large public les travaux des chercheurs. Nous l'écoutons.
Monsieur le chancelier honoraire de l'Institut, monsieur le chancelier de l'Institut, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, cette séance solennelle est dédiée aujourd'hui à la réception des membres élus en 2005. En application de notre nouveau statut, adopté en l'an 2000, nous avons procédé en 2005 pour la quatrième et dernière fois à l'élection de 25 nouveaux membres que nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui, tant leur présence répond aux espoirs que nous avions mis dans la perspective d'élargir nos compétences et notre volonté de demeurer fortement impliqués dans la vie de nos laboratoires de recherche. Certains d'entre eux vont brièvement évoquer devant nous, dans quelques instants, la démarche et la passion qui les a guidés dans leurs travaux. Rappelons que nos nouvelles règles, tout en ayant permis un accroissement de 100 nouveaux membres, nous ont imposé strictement désormais de ne pas appeler dans les nouveaux élus plus de 50% de scientifiques âgés de plus de 55 ans. Notons d'ailleurs combien les années à venir seront différentes des 4 dernières, puisque l'effectif de nos membres français est limité à 250. En conséquence, il nous faudra attendre 2007 pour ouvrir une nouvelle session d'élection. J'ai maintenant le triste devoir d'évoquer devant vous tous nos confrères qui nous ont quittés cette année. André Rassa, grand chimiste qui fut professeur à Grenoble et dirigea avec talent le département de chimie de l'École normale supérieure. Robert Naquet, neurobiologiste réputé qui dirigea le laboratoire de physiologie nerveuse du CNRS à Gif-sur-Yvette, et servit avec efficacité les sciences du vivant du CNRS. Pierre Potier, cet immense chimiste, qui avait su trouver dans les substances naturelles des molécules qu'il sut transformer pour en augmenter l'efficacité et qui sauve aujourd'hui même tant de vies. Il fut aussi un grand serviteur public de la recherche. Gilles Kahn, informaticien de premier plan, tant par ses travaux connus du monde entier que par son activité d'animateur et d'organisateur de toute la recherche française en informatique. Jean Bernard, grand humaniste, illustre hématologiste, résistant de la première heure, dont l'œuvre de clinicien et de chercheur a permis de sauver tant d'enfants atteints de leucémie. Nous déplorons également la perte de plusieurs associés étrangers. Raoul Bott, professeur de mathématiques à Harvard, qui fit faire de grands progrès à la géométrie algébrique et se passionna pour ses relations avec la physique théorique. David Blow, qui enseignait la biophysique à l'Imperial College de Londres, fut l'un des pionniers de l'analyse cristallographique des protéines. Valentin Télégdi, professeur à Chicago, à Zurich, vrai citoyen du monde, grand expérimentateur de la physique des particules élémentaires, qui marqua la discipline par des expériences décisives de haute précision. Il faisait partie, disait-il, du club des inverses millionnaires, ceux qui avaient su mesurer avec une précision supérieure au millionième. Mesdames, Messieurs, je vous demande quelques instants de recueillement en pensant à nos disparus. Une fois encore, je voudrais évoquer devant vous qui rejoignez notre compagnie ces missions. En effet, jamais les questions de science et d'éducation n'ont été si présentes dans notre société. Quoi que l'on puisse penser de la mauvaise perception des enjeux de la science par nos concitoyens, les enquêtes d'opinion les plus récentes continuent à témoigner de l'attente confiante vis-à-vis de notre système de recherche et de nos chercheurs de la part d'une très grande majorité d'entre eux. Je songe à un sondage qui a été fait pour le salon de l'innovation et de la recherche qui s'est tenu le week-end dernier par la société CSA. Ils souhaitent que nous nous penchions sur les questions contribuant au bien-être de l'humanité. Et loin derrière, il est vrai, que nous contribuions au progrès des connaissances, bien avant de mentionner dans leurs souhaits notre compétitivité économique. Sans surprise, ils nous disent que leur attente concerne principalement la santé et la protection de l'environnement. Malgré les vociférations de certains qui trouvent dans les médias un écho démesuré, nos concitoyens ne voient pas en nous de dangereux irresponsables prêts à tout pour satisfaire notre curiosité ou notre ego. Si bien souvent les scientifiques qui s'expriment sont disqualifiés d'un méprisant « d'où parlez-vous ?» détestable, car il revient à laisser le champ libre à l'incompétence glorifiée. Cela ne peut s'appliquer à notre compagnie, où ne s'expriment en toute indépendance que nos convictions. Cette attente publique nous impose de ne pas nous replier sur nos travaux internes, quel que soit l'intérêt que nous y trouvons. Il nous appartient d'exposer publiquement les enjeux de la science, ses succès, mais aussi ses difficultés et ses espoirs. Nous devons montrer, par exemple, que si santé et environnement sont des préoccupations publiques légitimes et bien compréhensibles, leur implication en termes de définition de programmes de recherche est loin d'être évidente. En effet, si nous regardons derrière nous, je ne vois aucune des disciplines réunies dans notre académie qui n'ait contribué au progrès dans ces deux domaines. Pour les sciences de la vie, c'est l'évidence. Mais l'informatique, la physique, la chimie, la science des matériaux, celle de la planète, les mathématiques ont toutes apporté leur pierre à cet édifice. Si nous laissions en déshérence des pans de la recherche, au motif qu'ils ne sont pas immédiatement connectés à des objectifs prédéfinis, le risque serait grand de passer complètement à côté de la solution aux questions posées. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas faire de choix, mais qu'il faut être attentif à l'expression libre des chercheurs, guidée par un sens difficile à programmer, mais qui se révèle in fine payant, si vous me permettez. Il est en effet de bonne science que celle qui excite la curiosité et l'imagination des chercheurs. Au passage, cela me conduit à souligner une question très actuelle. Depuis un an, une agence nationale de la recherche, bien dotée financièrement, je salue sa nouvelle directrice, est venue de manière heureuse compléter l'organisation de notre recherche par un mécanisme d'appel à projet. Malgré le caractère improvisé de son organisation, bien compréhensible dans les premières phases, cette agence a su donner de manière souple des moyens à nos meilleures équipes, et en particulier elle s'est efforcée de donner à des jeunes chercheurs la possibilité de développer en toute indépendance ce qu'ils portaient en eux. Sa confiance dans l'imagination créatrice de nos chercheurs, des universités et des organismes de recherche, s'est manifestée par une fraction d'environ 25% de programmes blancs, c'est-à-dire non prédéfinis. L'expérience montre d'ailleurs que cette proportion aurait avantage à être encore augmentée. Une administration légère, bien connectée aux organismes de recherche, a assuré sa mise en œuvre initiale. La transformation en cours en un établissement administratif devrait se garder d'ajouter à notre organisation déjà difficilement lisible un organisme supplémentaire doté d'une vaste administration propre et disjoint des acteurs de la recherche. Nous attendons donc de nos membres qu'ils ne se contentent pas d'ajouter une ligne sur leur carte de visite, mais qu'ils contribuent activement à celle des actions de l'Académie auxquelles ils s'intéresseront. Je vais en citer quelques-unes à titre d'exemple. L'écriture de rapports destinés à être rendus publics sur des questions de science, les réflexions de comités et groupes divers consacrés à, j'énumère, par exemple, l'enseignement des sciences, relations internationales de notre académie, relations entre la science et la société, l'environnement, relations avec les pays en voie de développement, apport des sciences à la sécurité de notre pays, recherche spatiale, histoire des sciences, épistémologie, défense des hommes de science persécutés, questions d'énergie, écosystèmes et événements extrêmes, terminologie scientifique, etc. L'année écoulée a révélé de manière préoccupante et souvent même tragique combien l'école a du mal aujourd'hui à réaliser la fusion de notre société, malgré nos longues traditions laïques et multiculturelles. Les raisons en sont si complexes et nombreuses que je me garderai bien de pointer du doigt des responsables. L'Académie des sciences, convaincue qu'un enseignement réfléchi des sciences peut contribuer à réduire ces ruptures du lien social, même si, à l'évidence, il ne suffit pas pour cela de résoudre nos problèmes, s'est engagée dans des actions très concrètes en ce sens. La réussite de son action depuis plus de 10 ans pour l'enseignement primaire, portée par la très célèbre main à la pâte, a conduit le ministère de l'Éducation nationale à demander à l'Académie d'étendre ses réflexions sur de nombreuses questions tout à fait essentielles. Par exemple, il nous interroge sur le contenu des enseignements scientifiques au collège, dans les lycées professionnels et techniques, et sur bien d'autres points qui portent sur tous les degrés de l'enseignement. À cet effet, une délégation à l'éducation et à la formation, confiée à notre confrère Pierre Léna, un comité de l'enseignement, animé par notre confrère Yves Quéret, tente de répondre par des propositions concrètes à ces sociétés. À ces interrogations, pardon. Parallèlement, le comité sciences et sociétés a mis dans son agenda la nécessité de faire des propositions concernant la place et l'organisation de l'université dans notre pays, un sujet qui est resté fort peu abordé dans les 2 années de bouillonnement qui ont précédé l'adoption ce printemps de la nouvelle loi sur la recherche et dont pourtant l'importance n'échappe à personne. Il est intéressant peut-être de se livrer à quelques comparaisons internationales pour analyser les rôles variés des académies dans le monde. À l'Est, nous trouvons des académies prestigieuses et anciennes, comme celle de Russie, ou de créations plus récentes, comme celle de Chine. Ce sont des académies qui gèrent l'essentiel des instituts de recherche de leur pays. Cela leur confère un rôle dual, académie en notre sens et ministère, ce qui leur ôte sans doute un peu de l'indépendance à laquelle ici nous sommes tant attachés. À l'Ouest, les grandes académies des États-Unis, du Royaume-Uni, ou plutôt du Commonwealth, puisque la Royal Society lui est ouverte, de la Suède, des Pays-Bas, etc., ont des missions variées. Ainsi, cette dernière, les Pays-Bas, gère quelques instituts de recherche. La Royal Society, au Royaume-Uni, distribue quelques centaines de fellowships, c'est-à-dire des bourses de recherche, permettant à des jeunes de haut niveau de consacrer en début de carrière plusieurs années exclusivement à leur recherche, avant de rejoindre l'université ou le monde économique, qui, outre-Manche, n'a pas la prévention d'une autre contre les formations doctorales et postdoctorales. Mais ce sont principalement des académies qui tentent, comme la nôtre, de faire entendre des pouvoirs publics et de leurs concitoyens la voix indépendante du monde scientifique, les décisions finales revenant évidemment en toute légitimité démocratique au pouvoir législatif et exécutif. À ce propos, je signale que depuis l'an 2005, les académies des sciences des pays du G8, qui invitent également à les rejoindre celles du Brésil, de Chine, d'Inde et depuis cette année d'Afrique du Sud, ont décidé de se concerter sur les questions mettant en jeu les sciences, destinées à être examinées quelques semaines plus tard par les chefs d'État dans leur réunion annuelle du G8. L'an passé, une déclaration commune sur l'importance des mesures à prendre face au changement climatique et pour le développement de l'Afrique avait été transmise aux chefs d'État réunis en Écosse. Nous avions eu la satisfaction de voir que beaucoup des éléments que nous avions transmis avaient été repris dans la déclaration finale des dirigeants du G8. Cette année, une déclaration concernant les questions d'énergie dans le cadre d'un développement pérenne et celle des mesures mondiales à prendre face aux épidémies mondiales de maladies infectieuses sera rendue publique demain 14 juin, simultanément dans les 12 pays des académies concernées avant la réunion du G8 à Moscou en juillet prochain. Enfin, je voudrais faire observer que, demander avec vous, qui d'autre que notre Académie peut attirer l'attention de l'opinion et des pouvoirs publics sur le triste état de nos universités, sur le danger pour l'avenir de nos entreprises à négliger la formation par la recherche, conséquence sans doute d'une dualité grandes écoles-universités inadaptée, me semble-t-il, au monde d'aujourd'hui, sur le départ de tant de nos chercheurs confirmés parmi les plus brillants, sur la fuite interne des jeunes intéressés par les sciences, mais qui s'en détournent, car nous ne leur offrons pas des conditions de travail adaptées à leurs ambitions au meilleur sens du terme, sur la compétition mondiale pour l'intelligence dans laquelle nous devons résolument nous placer. Nous sommes peut-être la seule académie ou presque à avoir gardé la tradition d'une séance hebdomadaire. Certes, je sais bien que pour beaucoup d'entre vous, nos nouveaux membres, engagé dans des actions de recherche exigeantes, il sera parfois difficile d'y être assidu. J'espère vous avoir convaincu qu'il existe bien d'autres modes de participation à nos travaux. C'est donc aussi bien pour saluer l'excellence de vos travaux que pour vous convier à œuvrer en notre sein que votre élection doit prendre tout son sens. En travaillant dans cette académie, vous aurez la chance d'y rencontrer, d'y collaborer avec des confrères de disciplines variées, à mon sens, l'un des aspects importants, l'un des charmes qui font apprécier d'appartenir à cette compagnie, mais aussi d'y connaître les collaborateurs compétents et efficaces qui nous accompagnent dans nos tâches, que j'ai plaisir ici à vivement remercier. Je vous souhaite donc, au sein de l'Académie des sciences de l'Institut de France, une grande réussite et beaucoup de satisfaction dans les missions et l'exercice des responsabilités qui accompagnent votre titre d'académicien. Merci.
Vous venez d'entendre le discours de réception du président de l'Académie des sciences, Édouard Brézin, pour la réception des 25 nouveaux membres. C'était le 13 juin 2006, sous la coupole de l'Institut de France. Nous vous invitons à découvrir les travaux de nouveaux académiciens que vous pourrez retrouver dans nos archives. Il s'agit notamment du prix Nobel 2005 de physique, Monsieur Yves Chauvin, et du vétérinaire Charles Pilet. Merci d'être à l'écoute de nos émissions et à très vite sur Canal Académie. Au revoir.